autre que j'ai fait le mal, c'est pas moi. Alors à ce moment-là, s'ils ne voient pas que c'est vraiment leur responsabilité et leur faute, ça veut dire qu'ils vivent au plan psychologique, il n'y a aucune conscience de leur faute, ça veut dire qu'ils vivent comme au niveau seulement psychologique, c'est-à-dire dans la dimension animale de leur intelligence, c'est le sentiment de culpabilité. C'est pour ça que ça en fait des névrosés et que du coup, ils compensent par des habitudes boulimiques, etc., hypertrophiques, etc., et qui rentrent dans les dérives, ils se cachent comme l'autruche et ils ne voient pas du tout leur responsabilité. Alors, c'est le sentiment de culpabilité. Nous avons vu que ce que ça donnait, ça donne l'angoisse. Les gens angoissés sont des gens qui ne veulent, qui n'ont, à un moment donné, on dit, c'est pas moi, c'est l'autre.
Les psychiatres les aident.
Ah bon? Voilà, c'est là-dessus que les psychiatres jouent. Les psychiatres jouent sur le sentiment de culpabilité. Quand vous allez voir un psychothérapeute, il veut essayer de positiver le sentiment de culpabilité. Mais on ne sort pas du sentiment de culpabilité. Le thérapeute ne va surtout pas dire « Pardon, c'est vous, c'est votre responsabilité. » Et donc, il va enfermer par la positivité en montrant que finalement, c'est vrai, c'est vraiment ton père, c'est vraiment ta mère, c'est vraiment ton mari, c'est eux qui sont responsables. Vous comprenez? Alors, ils vont positiver. On peut positiver par l'agressivité. Il y a l'angoisse, je la mets à jour par la psychothérapie. Et du coup, je vais essayer de la positiver par l'agressivité. C'est la faute de ton père. Alors tu es prié de castrer ton père. Il faut que tu coupes le cordon ombilical avec ta mère, etc. Et en faisant cela, comme ça tu retrouves ta personnalité. Mais en constitution du moi. Mais on reste dans une harmonie de la personne qui est psychologique et qui se noue en son centre dans le sentiment de culpabilité. C'est charmant d'avoir une vie dont le noyau, c'est le sentiment de culpabilité. Charmant. C'est pour ça que ça fait des gens terriblement malheureux. Et c'est le but des psychologues, c'est d'enfermer les gens dans leur sentiment de culpabilité. Ils ne le savent pas, sans doute, je l'espère. Mais certains le savent. Alors, c'est ce que nous avons vu très longuement. Donc, nous avons vu les quatre fois précédentes. Le processus, par contre, de si le sentiment de culpabilité qui dérive toujours sur une angoisse, ce que je viens de vous expliquer, s'il est assumé spirituellement, si on accepte de regarder par la mémoire, par l'intelligence, je me remets en situation, non pas telle que je vois les choses à partir de maintenant, parce qu'à partir de maintenant, c'était il y a 10 ans, ou c'était il y a 30 ans, tu comprends, ou c'était même il y a la semaine dernière. Dis-moi, oui, c'est vrai, on admet un petit peu, mais pas l'essentiel. C'est pas moi, au fond. Et on a tout un ensemble de... je veux bien regarder, parce que si je me mets en face de la réalité de l'événement en question, qui est un événement blessant, qui est un événement destructeur, qui est un événement d'échec, qui est un événement de trahison, qui est un événement de maladie ou de mort. C'est les cinq types d'événements qui construisent le sentiment de culpabilité, n'est-ce pas? La faute, ce sentiment, cette odeur, la faute au fond de moi. Alors, si je me remets en face de cette réalité-là, en face, je me mets debout et je l'assume. Alors à ce moment-là, naît cette angoisse, apparaît la conscience de culpabilité. J'accepte de la regarder en vérité, en face, telle qu'elle. C'est là qu'on devient responsable. À ce moment-là, ce n'est plus, on sort d'un noyau central qui est psychologique et on commence à rentrer autour d'un noyau qui est celui de la conscience de culpabilité. On commence à devenir un homme, un petit peu. En tout cas, l'animal n'a pas de conscience de culpabilité. Le chien n'a pas de conscience de culpabilité. Donc, on commence à être un petit peu au-dessus du chien. Un petit peu au-dessus de la grenouille. légèrement au-dessus de l'albatros. La conscience, on j'accepte de prendre, c'est les regarder. Nous avons vu la dernière fois que si j'accepte de regarder la chose en face, c'est de la reprendre dans ma responsabilité et de la réassumer, elle refait mal. Elle refait mal, vous comprenez? C'est sûr. Alors du coup, ça a une nouvelle redondance. Et ces nouvelles redondances, j'aime pas cette conséquence seconde au niveau de l'apparition de la conscience de culpabilité. Et du coup, si je veux refouler ce mal second, il va y avoir ce que nous avons vu la dernière fois, les réactions négatives à la prise de conscience. À la conscience de culpabilité. Et les réactions négatives, nous les avons vues, c'est les folies, les psychoses, la confusion intérieure, la relation fusionnelle. N'est-ce pas? Voilà les réactions négatives que nous avons vues la dernière fois en détail. Je vous rappelle que la réaction négative principale, c'est le déni. Je vous rappelle, ceux qui n'étaient pas là, le déplacement, la fuite, le délire, la psychose, le déni, la résignation, la sublimation. Voilà les cinq réactions. Vous voyez? Parce que je réagis avec toute ma personne, n'est-ce pas? Alors, je réagis par la fuite. Du côté de l'imagination, j'ai envie de fuir ça. Je reprends en main, comme responsable, cette chose, cet événement, n'est-ce pas? C'est à chacun de voir un exemple dans sa vie. C'est pas compliqué, chacun a au moins un événement dans sa vie. Hein. Qui correspond, hein, ça. Si vous n'en avez pas, venez me voir. Ça prouve que vous êtes encore dans le sentiment de culpabilité. Vous ne le savez pas, non, moi ça va bien. Moi, je n'ai jamais rien fait de mal. Tu creuses un peu. Et puis, je vous assure que c'est impressionnant, hein, la confession, quelquefois. Il commence par dire, moi j'ai rien fait de mal. Mon père, je viens parce que... Ça m'a rien fait de mal, tout ce que j'ai fait, c'est toujours ce que j'ai fait, j'ai pas volé, j'ai pas tué, je sais pas, tu creuses un peu, il a volé, il a tué. Tu creuses un peu pas longtemps, hein, en 3 minutes, hein. Vous n'avez pas volé, bon, on va voir. Vous n'avez pas tué, bon, on va voir. Et à chaque fois, quand quelqu'un vient me voir en confession, il dit, mon père, moi j'ai rien fait de mal, moi, j'ai pas volé, j'ai pas tué, je fais tout ce que je peux. Je prends les 3 affirmations qu'il a faites, ce sont des affirmations de défense. Pourquoi il choisit voler, tuer? Ça prouve qu'il a tué et volé. Il dit, j'ai pas fait, c'est le déni. Ça prouve qu'il l'a fait. Alors il suffit de creuser, il faut creuser là. Alors, il dit, mais il a lu en mon âme celui-là. Non, je n'ai pas lu en son âme, j'ai écouté ce qu'il a dit. C'est pas pareil. C'est ça le déni, vous voyez? Et paf, il a tué. Un enfant, ça compte pas un enfant, vous comprenez? C'est pas pareil, ça s'est pas vu, donc il le voit plus non plus. Ouais, c'est bien, tu es un bébé, il se rappelle plus. C'est vraiment, pas vu, il a pas été vu par les flics, donc pas pris. Vous comprenez? Il peut être arrêté par les gendarmes. Ouais. Les gendarmes vous disent, vous êtes en infraction ou pas là? Dis-moi, moi, j'ai jamais dépassé le 120, jamais, j'ai jamais été pris. Il n'a jamais été pris, donc il n'a jamais dépassé, vous comprenez? Non, et les flics, ils le savent bien, ça. Hein? C'est pas parce que tu n'as jamais eu d'amende que tu n'as jamais dépassé. Et si tu dis, j'ai jamais dépassé, le type qui dit, j'ai jamais dépassé, alors là, ils peuvent mettre l'amende. Et vous le savez très bien. Dites celui-là, il dit, j'ai jamais dépassé, c'est à celui-là qu'ils mettent l'amende. Parce qu'ils savent très bien que c'est un menteur. Mais c'est un menteur contre. C'est pas, il n'en peut rien. Il est enfermé lui-même, il ne le sait plus. Tandis que lui qui dit, c'est vrai, ça m'est arrivé, vous savez. Alors là, le flic est désarmé. Il dit, bon, allez, circulez. Oui, c'est vrai. J'ai tous les torts. Hein. J'ai tous les torts. monsieur, l'argent, j'ai tous les torts, ça c'est vrai, j'étais passé, oui. Vous dites 130, je pensais que j'étais à 140 000. Ouais, c'était limité à 50 000, là. Bon, allez, circulez, là. Hein, c'est curieux, ça. Bon, alors, donc, vous avez vu, donc, notamment, donc, le déni. Le déni, c'est tout simple. Vous êtes à la maison, vous prenez un repas, vos enfants sont là. Papa. Ah, vraiment, là, t'es pas content. Alors, papa, bon. Moi, pas content? Pas du tout. Ça va très bien. Ça va très bien. Le déni, c'est extraordinaire, le déni. Quand quelqu'un dit Moi, mais non. Mais ça va très bien. Mais pas du tout. Vous voyez? Repérez. Ça, c'est du déni. Sur n'importe quoi. C'est le refus, donc, si vous voulez, de cet écho. Lorsque je reprends conscience de quelque chose, de l'écho que ça peut avoir une deuxième fois. Vous savez, quand vous avez été une plaie, et que la plaie se rouvre à nouveau, c'est quelquefois un petit peu plus, ça peut être plus douloureux. C'est pas plus douloureux, en fait, mais comme la peur, s'il y a le soin, vous voyez, alors, bon, alors le déni, c'est le déni. La résignation, ça, le déni c'est du côté de l'intelligence, la résignation c'est du côté de la volonté, la résignation dit bon, puisque c'est comme ça, bon, tant pis, il n'y a plus qu'à se résigner de toute façon, c'est comme ça, et puis c'est tout, c'est fatal, c'est un blocage en fait, la résignation pour voir la réalité en face, bon, il n'y a rien à faire de toute façon, c'est comme ça, c'est fini. La résignation, vous voyez, il est mort. Il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que tu vas t'occuper de cette affaire maintenant? Qu'est-ce que tu vas te ressasser ça, enfin. Reprendre. C'est la volonté, ça. Vous voyez, c'est le cœur qui est bloqué. C'est pour éviter de revoir la vérité en face. Vous voyez, ça, la résignation. C'est pour éviter de réassumer de manière humaine, responsable, ta responsabilité. C'est donc effectivement. Donc une réaction négative de la conscience de culpabilité. C'est pas du tout le sentiment de culpabilité qui est derrière là, vous voyez, c'est la conscience, vous le sentez tout de suite. C'est le retour de la réalité, vous revient en face, et vous dites, mais... Il y a certains qui vont répondre par le déni en disant, mais moi j'y suis pour rien, j'y étais pour rien, moi. Ou d'autres vont répondre en disant, mais qu'est-ce que tu t'occupes encore de cette affaire, c'est fini, faut se résigner, faut pas s'en occuper. Hein? Donc vous voyez la différence entre la réaction affective, la résignation, et la réaction intellectuelle, le déni. Moi, pas du tout. L'intellectuel, c'est moi. Le cérébral, si vous voulez. Celui dont le cœur est mort. Mais celui dont le cœur est encore vivant, il répond par la résignation. Oh, qu'est-ce que tu t'occupes de ça? C'est mieux la résignation, parce que ça prouve que c'est le cœur qui réagit. Mais ça reste une réaction négative, c'est une réaction... C'est une réaction qu'il faut faire attention, elle s'approche de la folie. C'est beaucoup plus grave que la névrose. Pour le moment, la névrose, c'est le sentiment de culpabilité qui réagit négativement. La réaction négative face à la conscience de culpabilité, attention. On commence à s'approcher de la folie, de la psychose. La psychose est un inguérissable. En principe, c'est ce que disent les psychologues. Évidemment, guérissable. C'est justement ce que nous essayons de voir. C'est évidemment guérissable, la psychose. La sublimation. Bon, alors vous pouvez sublimer. Vous avez connu cette histoire de sublimation. Nous avons vu, donc je ne reviens pas dessus. Donc le résultat des réactions négatives sont quand même au nombre de 3. Et avant de passer aux réactions positives de la conscience de culpabilité, vous voyez, ça va faire le point de vue, donc ici. Le point de vue de la relation fusionnelle, je vais m'identifier à un autre personnage. Je ne veux plus assumer l'échec de mon premier mariage, qui est mon choix d'homme. Et du coup, il faut absolument, très vite, que je retrouve une autre épouse, n'est-ce pas? Parce que je suis... c'est une relation fusionnelle. Je vais fusionner à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le divorce est toujours une réaction de dérive par rapport à la conscience de culpabilité après un divorce. J'ai donné pour toute ma vie, n'est-ce pas? Et puis je divorce. C'est-à-dire, je réagis négativement, c'est une réaction, au fond, de psychose. C'est un début de psychose, de se remarier après un mariage, dans le divorce. C'est normal, parce que l'échec est trop difficile à assumer, et donc je vais fusionner dans un autre personnage. Je ne suis pas du tout son époux, je suis l'époux de quelqu'un d'autre. C'est un phénomène fusionnel. C'est une sublimation. Il y en a d'autres qui ont peur. Ils ont des échecs avec leur sexualité personnelle, ou avec leur père, ou avec leur mère, ou avec, quand ils étaient gosses, à la maternelle, ils étaient comme fous amoureux du petit garçon qui était là. Le petit garçon est arrivé, je fais jouer avec toi, boum, un coup de poing dans la figure. Et à cause de ça, il y a un échec terrible, et du coup, c'est oublié depuis longtemps, vous comprenez? Mais il y a eu d'autres échecs après qui ont réveillé ce premier échec. Alors, du coup, j'ai peur du mariage. N'est-ce pas? Alors, comme j'ai peur du mariage, j'ai jamais pardonné à ce petit garçon. J'ai jamais pardonné. Je me suis jamais pardonné cet échec. Et à chaque fois que j'ai de nouveaux échecs, je ne me pardonne jamais. Alors, du coup, il va y avoir possible, c'est possible. Je vais me faire moine. J'ai peur du mariage, je me fais moine, vous comprenez? C'est pas tous les moines! Mais c'est beaucoup de gens qui rentrent au noviciat. Le père maître le voit tout de suite, hein. Donc non, vous n'êtes pas fait pour la vie monastique. Ça se voit immédiatement. Alors, je sublime. C'est pour ça que je me suis fait vider de 12 monastères. C'est pas vrai, non. C'est un problème d'identité personnelle. J'ai peur donc du mariage. Alors j'idéalise du coup dans la fuite. J'idéalise la vie humaine, monastique, etc. Et du suivi pour ça. C'est une idéalisation. C'est une psychose. Et Freud il dit que tout le phénomène religieux est un phénomène de sublimation psychotique. Freud, c'est ça. Vous savez bien, le surmoi s'explique par la sublimation. Alors le surmoi, c'est tout le domaine religieux. Et Jung va s'approfondir là-dedans, se jeter là-dessus. Vous voyez bien ? Donc toute la vision de l'homme responsable de Freud, de Jung et toute la philosophie analytique, c'est de regarder que c'est la réaction négative par rapport à la conscience de culpabilité qui structure métaphysiquement le cœur de l'homme. Vous voyez bien que ça ne va pas. Et en plus, ce sont des choses qui correspondent à ce qu'ils disent eux-mêmes. C'est une structure qui est construite par eux, ça, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose de vrai. Mais c'est la réaction négative. Mais la sublimation est quand même, hein, nous l'avons vu la dernière fois, vous voyez, c'est quand même partie de ces réactions négatives. Et ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église, qui ont la foi, etc., je suis désolé, qui sont dans une réaction négative. Et il y a aussi peut-être Dieu qui compte. Et si c'était Dieu qui les avait pris? Et si c'était Dieu qui avait pris leur cœur? Jésus qui avait séduit leur cœur? L'amour du Christ m'a saisi. Je ne peux plus quitter. C'est pas la sublimation, ça. C'est une expérience. Freud n'a jamais fait. Il pense qu'elle n'existe pas. Il n'a jamais vu. Dreverman, c'est pareil. Il n'a jamais vu. Jamais. Un de ces malades qui ait connu cette expérience. Jamais. Donc il dit, Dreverman, c'est terrible parce que Dreverman, il n'a que reçu dans son cabinet, ce prêtre, n'est-ce pas, nouveau théologien, il n'a reçu dans son cabinet que des prêtres et religieuses qui sont psychotiques, puisqu'il ne prenait que ça, hein, que des prêtres religieux et qui étaient dans un état psychotique ou névrotique. Alors, Donc, il n'a jamais. Et lui, apparemment, lui aussi, c'est pareil. Donc, il se retrouvait bien là. Donc, il n'a jamais vu quelqu'un qui a été saisi par le Christ. Alors, il dit, hein, la cléricature de Treverman. C'est pour ça qu'il rejette l'institution sacerdotale comme institution Treverman. Parce que tout ça, c'est un phénomène de sublimation. C'est des gens qui cristallisent leur refus d'être responsables dans la situation. C'est pour ça qu'on ne peut pas construire une vision réaliste de la vie religieuse par la psychanalyse. La psychanalyse est incompétente. Son seul matériel de laboratoire, son seul laboratoire pour comprendre, c'est que des ratés, que des malades. Alors donc, c'est pas possible. Je ne peux pas regarder la réalité de quelqu'un qui est sain, qui a une bonne santé, uniquement par ceux qui ont raté. Pour savoir comment est-ce que c'est de la santé, il faut regarder comment ça marche quand c'est en bonne santé. C'est jamais par la négative. C'est Hegel qui a déclaré qu'on ne pouvait voir une chose que par sa négative. C'est ça la dialectique de Hegel. C'est Hegel. C'est parce qu'aujourd'hui, tout en Occident, nous dépendons tous de Hegel. Et ceci, c'est vrai dans tous les séminaires, sauf dans quelques-uns, n'est-ce pas? C'est Hegel. Aristote, c'est trop vieux. Aristote, on ne peut comprendre une chose que dans ce qu'elle est positivement, réellement, expérimentalement. Hegel dit non, c'est par la négation qu'on avance. Il faut le primat du néant, le primat de la négation pour être intelligent. Et dans tous les séminaires, c'est Hegel qui prime. Maintenant, c'est peut-être différent, mais pendant 40 ans, c'était ça. Hein, pendant 40 ans. Peut-être que maintenant, depuis les années, début des années 80, ça commence à changer. On commence à rechanger à nouveau l'enseignement dans les séminaires. Mais pendant 40 ans, tous ceux qui ont été ordonnés jusqu'en 1980 ont été trempés là-dedans. C'est pourquoi ils vont vous donner l'intérêt, c'est pas de leur faute. Alors là, ça c'est vrai que c'est pas de leur faute. Hein. Et c'est là qu'il faut admirer tous ces prêtres hein, qui font l'Eucharistie, qui restent fidèles, alors qu'on leur a bousillé leur intelligence, qui fait que c'est impossible pour eux de le vivre en pleine conscience ce qu'ils font. Impossible. On les a bousillés dans leur intelligence. Et ils restent fidèles, ça prouve que Jésus a pris leur cœur. Hein. Il faut admirer ces jeunes-là. Ah, évidemment, ils ne sont pas en phase intellectuellement, du coup, il n'y a pas la lumière qui sort de leur visage. Eh bien, ce sont des vrais prêtres. Il faut l'admirer. C'est là où le prêtre est le plus victime. Et donc, c'est là où il est le plus prêtre. Ça. Donc, nous l'avons vu la dernière fois, donc c'est le point de vue fusionnel, vous comprenez ce que ça veut dire, la relation fusionnelle, la folie des psychoses, vous rentrez du coup dans l'idéal, dans l'irréel. Et rentrer dans l'irréel, ça peut aller, c'est ça, d'aller jusqu'à la psychose, n'est-ce pas? Vous avez donc compris. Et enfin, la confusion intérieure, c'est-à-dire, vous dites, le sentiment de culpabilité, la conscience de culpabilité, tout ça, c'est pareil. Vous voyez, vous revenez dans la réaction animale, et donc il y a à nouveau une confusion, vous comprenez plus ce que c'est que votre responsabilité face à la faute, et ce sentiment de culpabilité, et vous tous ramène à nouveau à une seule et unique angoisse. Une confusion, à ce moment-là, qui se fait en vous, entre la dimension spirituelle et la dimension psychologique. Quand vous n'allez pas reconnaître en vous, tiens, mais ça, c'est une réaction psychologique, ou bien c'est une réaction spirituelle? Ah ben ça, là, ici... J'arrive pas à voir si c'est certains charismes, par exemple. Oh, qu'est-ce que je ressens fort, mon Dieu, en ce moment? C'est psychologique ou c'est spirituel? Qu'est-ce que je ressens? Ça, c'est spirituel, là. J'ai une expérience spirituelle terrible. Je ressens le Seigneur. Oh. Je suis désolé, c'est psychologique. Et vous, vous dites c'est spirituel?
Non, c'est...
Non, mais pas vous, pas vous.
Mais non, mais moi, c'est la reine de la
Non, non, pas vous ici, il n'y a personne ici. C'est une erreur pareille. Jamais ici, ça fait des années qu'on est formé à ça, voyons. Donc ici, personne, mais les autres, n'est-ce pas? Eh bien, les autres, ils reçoivent. Oh, c'était fort. Oh. Ça, j'ai eu une expérience spirituelle extraordinaire. Désolé, c'était psychologique. Pourquoi c'est spirituel? Je le ressens tellement fort que... Mais attends, si tu le ressens, c'est que c'est psychologique. Confusion, voyez, entre spirituel et psychologique. Mais c'est vrai que quand Dieu est là, il y a un écho dans notre vie, dans notre sensation. Il y a un écho. Mais cet écho, c'est dans la sensation. Donc ce que je ressens, c'est pas spirituel, c'est seulement l'écho. Je ne suis pas capable, à cause de cette conscience de culpabilité refoulée dans la négative, je ne suis pas capable d'éprouver, de voir le centre de l'écho qui est spirituel. Quelqu'un qui est personnel, qui est contemplatif, bien sûr, s'il sent l'écho, il est très content. Il est très content, mais il le méprise. Mais il voit et il éprouve davantage, vous voyez, je ne dis pas il ressent, il éprouve davantage le point de vue spirituel. Qui lui est insensible, mais il l'éprouve, il le voit vraiment, on le voit, hein, on le voit. Cette vérité de lumière totalement insensible, mais totalement lumière. Et on le voit, et c'est là, c'est de ça qu'on se réjouit. Et je suis capable de voir, dans l'Eucharistie, on pourrait très bien imaginer, s'il y a par exemple des magiciens, des médiums, etc., qu'une hostie non consacrée illumine dans la splendeur toute une pièce. Ça pourrait se faire, ça. Il y en a qui l'ont fait, il paraît. Il n'y a pas la présence du Seigneur. Par contre, une hostie qui n'éclaire rien du tout, il y a la présence du Seigneur. Un chrétien, normalement, il doit pouvoir reconnaître qu'il y a une présence réelle dans une hostie. Il doit pouvoir le reconnaître. Et ce n'est pas ce qu'il en ressent. Il reconnaît le cœur de son cœur, il reconnaît son Messie, il reconnaît son Créateur, il a une intimité avec lui, il sait qu'il est là ou pas. Vous vous rappelez ce qu'un Sainte Catherine de Sienne un jour, parce que c'est là qu'on vérifie si quelqu'un vit au niveau psychologique, animal, ou au niveau spirituel, humain, quoi. Catherine de Sienne, un jour, un prêtre veut vérifier si c'est psychologique son truc, si c'est sorcellerie métapsychique, ou bien si c'est spirituel, ce qui arrive à Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne, on va fêter Sainte Catherine de Sienne le 28 avril. Donc bientôt, tu vois. Alors il apporte, avec une très grande dévotion, le visage rempli de splendeur, de crainte, de tremendum fascinandum, il apporte une hostie non consacrée à Catherine de Sienne. N'importe qui, n'importe quel imbécile aurait dit, ce prêtre est merveilleux, il m'apporte Jésus, avec une dévotion. Corpus Christi, Catherine de Sienne, qui avait 28 ans. Faire un acte d'idolâtrie et me faire adorer un morceau de pain. Vous voulez me faire adorer un morceau de pain à travers un morceau de pain qui n'est pas Dieu, vous voulez que j'adore. Vous voulez me faire faire un péché d'idolâtrie. Non ! Il n'avait pas pensé qu'il allait faire faire un péché d'idolâtrie. Il n'avait pas pensé. Vous voyez qu'on a des progrès à faire pour... Voilà. Il faut savoir reconnaître Jésus dans l'Eucharistie. Il faut être un homme debout, une femme, dont l'intelligence marche. Et le cœur marche. Le radar de l'intelligence et du cœur, suffit à voir qu'il y a quelque chose de consistant au niveau métaphysique. Dans un bout de pain, métaphysiquement, il n'y a rien du tout. Dans un être humain, métaphysiquement, il y a quelque chose. Et dans l'Eucharistie, il y a à la fois ce quelque chose de métaphysique qu'on trouve dans un être humain, et à la fois le divin. Donc j'ai deux yeux pour voir quelque chose dans le, s'il y a quelque chose de supplémentaire dans l'Eucharistie. Je suis capable de voir cette dimension métaphysique naturelle qui a l'être d'un être humain dans un coup de pain. Et par la foi, je suis capable de voir la lumière surnaturelle qui... La lumière surnaturelle, voyez bien, qui permet de voir que la divinité du Messie est là. Donc j'ai deux possibilités de reconnaître si Jésus est présent dans un bout de pain. Parce que normalement, avant la consécration, eh bien, il n'y a rien, il n'y a pas d'être. Il n'y a pas d'être. C'est une forme d'un agglomérat de poussière, de farine. Ça, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, il y a bien quelque chose qui est là, mais ça n'a pas de consistance, puisque ça n'a pas de consistance. Qui existe, ça a de la consistance, ça subsiste toujours. Il faut être capable, quand on voit quelqu'un qui est là, si c'est un poteau télégraphique ou si c'est une femme, ne dites pas pardon madame, un poteau télégraphique. Sauf si vous êtes aveugle. C'est terrible, le psychotique, il dit pardon madame, et donne un grand coup de pied dans les fesses d'une dame en disant que c'est poteau télégraphique, quel imbécile. Bon, alors. Donc, l'aspect positif maintenant, parce que c'est aujourd'hui, en principe, l'aspect positif. C'est ce que nous avons vu la fois dernière. Donc, aspect positif de la conscience de culpabilité. Ouf, il y a quand même un aspect positif, heureusement. Mais ça, si je deviens responsable, à ce moment-là, j'ai une manière positive de réagir. N'est-ce pas? Donc si j'accepte de remonter à la réalité de ma responsabilité, ah oui, alors si j'accepte à ce moment-là de venir à la lumière et d'illuminer, ouais, mon cœur, mon intelligence, tout mon être, ma réaction, ma responsabilité face à un échec qui m'est arrivé quand j'avais 12 ans, quand mon père m'a flanqué des coups de pied sous la table à coups de tatane, hein, Lucien. Pendant des années. Si j'accepte de regarder à nouveau en face tout ça, hein, mais dans la lumière, et je regarde aussi ma responsabilité, si j'ai reçu des coups de pied de mon père sous la table pendant 2 ans de suite, de l'âge de 4 ans à 7 ans, ma responsabilité c'est quoi? C'est ma manière de réagir à ce moment-là. J'ai eu des réactions. C'est vrai. Bon, et bien à ce moment-là, j'accepte positivement, qu'est-ce qui se passe? J'accepte l'aveu. Si j'accepte de revenir à la lumière, la première chose qui me permet de voir que ma conscience de culpabilité est là, et que j'ai accepté de revenir à la lumière, j'ai accepté d'être responsable, c'est que j'avoue. Il y a des gens qui n'avouent jamais. Qui ne confessent jamais. Leur faute, leur transgression. Ça veut dire qu'ils sont irresponsables. Ce n'est pas des êtres humains. C'est des êtres humains, ils pourraient le devenir. On espère, ce sont des êtres humains en espérance. Mais l'aveu. À ce moment-là, on est sûr. Vous voyez, c'est l'aveu, c'est extraordinaire parce que ça permet de sortir du cycle de l'agressivité, de l'angoisse, c'est de la psychose, c'est de la folie. Je veux dire, oui, tout simplement. Terrible, mais voilà ce que j'ai fait. J'avoue l'acte. C'est moi qui le fais, c'est pas quelqu'un d'autre. Ah, je peux toujours me justifier. Oui, c'est moi qui l'ai fait, mais j'y étais obligé. On m'a forcé. Hop, ça y est, et quelquefois, les gens s'arrêtent à la positivité de l'aveu, ils ne vont pas plus loin, et hop, reviennent, n'est-ce pas, dans la psychose. C'est tellement... La psychose, c'est un vide. Bon, ça attire, le vide. Il faut aller plus loin que la positivité de l'aveu. Aller encore plus loin. Vous voyez, quand vous nous... comment est-ce qu'on pourrait dire? Si quelqu'un vient, par exemple, dans une confession, ou alors vous êtes mari et femme, prenez, parce que c'est, ici, ce n'est pas la question de la confession surnaturelle, vous comprenez, c'est, vous êtes mari et femme, ou vous avez un enfant, il a fait une bêtise, C'est humain, ce que je vous explique là. Ce n'est pas de la religion, vous savez bien. C'est humain, c'est pour être un homme, un enfant d'homme, un fils d'homme. L'homme de sa femme, la femme de son mari, etc. Bon, c'est pour ça. C'est pour être un homme, un vrai. Bon, alors, je commence. Il faut bien sûr que je sois capable de dire, bah, voilà, ma chérie, j'ai fait ça. On apprend à un enfant à dire, qu'est-ce que tu as fait ? Vous surprenez un enfant à mentir, par exemple. Surprenez, ça arrive. Dites-lui, première réaction, très mauvaise. Menteur ! Tu n'es qu'un menteur ! Et le gosse dit. Voyez bien. On ne regarde pas l'acte qu'il vient de faire, la parole qu'il vient de prononcer. On dit que tout ce qu'il est, c'est toujours un mensonge. Il est menteur. Il est menteur. Tu es menteur. Et l'enfant, croyez bien qu'il sera... Moi, je me rappelle que... Oh là, non, je ne veux pas le dire, parce qu'il ne faut pas le prendre... Mais je me rappelle d'une personne que je connais très, très bien. J'ai vécu des années avec elle. Enfin, pendant 25 ans, j'ai vécu avec elle. Alors, un jour, sa maman lui a dit, menteuse, menteuse. Elle est tombée dans la folie, uniquement à cause de ça. Mais elle est tombée dans la folie, parce qu'à partir de là, il y a eu un... Elle est tombée dans la folie à 40 ans, à l'âge de 40 ans, tombée dans la folie. Parce que sa mère dit, tu mentais. Tout, toi, c'est un mensonge. Il ne faut jamais dire ça. Il faut dire, qu'est-ce que tu viens de dire ? Répète la parole que tu viens de prononcer. Une parole, c'est un accident. Vous comprenez ? Cette parole que tu viens de faire, elle n'est pas vraie. C'est ça l'éducation. Je dissocie la parole qui n'est pas vraie. Je la sépare par l'aveu de la personne. Toi, tu n'es pas un mensonge. Toi, je t'aime, mais ta parole qui est là, je ne l'aime pas. Mais si tu dis menteur, ça veut dire que je ne t'aime plus. Tu es tout entier non-amour de mon côté. Je te rejette. Vous voyez, c'est clair. Si vous regardez attentivement, le psychologue le sait très bien, ça. Un psychologue vous le dira. C'est de la psychologie, ça. C'est de la psychologie élémentaire. De dissocier l'acte de la personne. Tu fais revenir un acte dans sa matérialité brute. Alors du coup, l'enfant dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai joué au docteur avec ma cousine, c'est vrai. Qu'est-ce que tu faisais dans la cave ? Hein? Le nombre de gens qui n'ont jamais avoué qu'ils ont joué au docteur avec leur cousine dans la cave. Et si vous l'avez jamais avoué, je vous préviens, hein, vous avez intérêt à le faire, même 60 ans après. Il faut l'avouer. Il faut le dire, dans la matérialité brute. À ce moment-là, vous en séparez. C'est traumatisant, vous savez, de le garder. Un certain nombre de blocages qui sont en nous, ça vient uniquement de là. Mais l'avouer, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il se rejette, s'en séparer. Ça, c'est le repentir. Tu as fait ça. Une fois que l'enfant a avoué, il reconnaît que c'est vrai, il dit, ben, il faut qu'il s'en sépare. Il dit, bon, tu recommences à me le dire ? Tu dis toujours la même chose ? Tu persévères, si vous voulez ? Alors l'enfant dit, ah non ! Allez, repentir. Ok, je vais dire la vérité maintenant. Ça s'est passé, réellement, ça s'est passé comme ça. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu faisais dans la cave avec ta cousine ? Eh bien, tout simplement, on était en train de nettoyer, on passait le balai pour que ce soit propre, quoi. Bon, attends, répète ce que tu viens de dire. Répète. Qu'est-ce que tu as dit, là, à l'instant, dans ta bouche ? Là, j'ai entendu quoi ? Avec ta cousine, tu faisais quoi ? Ben, j'ai dit, comprenez le balai. Attends, c'est vrai, ça ? Ou c'est un mensonge ? Parce que le balai, il n'y en a pas à la cave.
c'est embêtant. Alors donc, peut-être que c'est pas vrai, quoi, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, mon bébé, hein? Hein, c'est le premier, l'aveu, il faut le faire avouer. Il faut, mais attention, il faut montrer que c'est pas grave. Mais ça, je n'accepte pas. Cette parole du mensonge, je ne peux pas l'accepter. Alors, c'est toi. Alors, dis donc, tu vois, toi que t'es pas menteur, alors tu vas me dire maintenant. Hein, tu vas répéter le mensonge? Non. Ah non, ouais, bon. T'as pas besoin de... Tu faisais une bêtise. Oui, je faisais une bêtise. Hein, donc, j'avoue. Donc quand il dit je fais une bêtise avec ma cousine, ça veut dire qu'il dit j'accepte, me repens de t'avoir menti, je ne mens plus. C'est le repentir. Il s'en détache. Pourquoi? Parce que sa maman l'a aimé, lui. Elle a regardé lui au lieu de regarder le mensonge. Alors il peut se repentir. C'est ce que fait Dieu avec nous. Quand j'avoue à Dieu, à travers le prêtre, je vois que Dieu me regarde. Il ne regarde pas le péché, c'est moi qui l'aime. Alors du coup, je me repens du péché. C'est sûr. Mais vous comprenez que si ma maman ne regarde pas derrière mon péché ce que je suis, son enfant, je ne peux pas avoir ce repentir. Et c'est sous ce regard d'amour que ma liberté de rejet par rapport au mal. Le mal, c'est beaucoup plus fort que nous. Le démon, c'est beaucoup plus fort que nous. On est un petit, vous savez. Le démon, c'est très puissant. Mais si il n'y a pas l'amour, je ne peux pas rejeter. Et c'est ça la liberté de l'homme. Un enfant devient libre quand il est capable de ne plus être esclave du mal. Il y a des gens qui sont incapables de ne pas être esclaves du mal. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas qu'ils ne voudraient pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas libres. Ils ne peuvent pas se passer. Il est impossible pour eux de se passer de la télé. Impossible pour eux de se passer de certains types de perversions. Ils ne peuvent pas. Ils voudraient bien être des saints quelque part très profondément, mais ils ne peuvent pas, et donc ils ne sont pas libres. Ce n'est pas qu'ils veulent. Pourquoi? C'est parce que justement, jamais ils ont été aimés à travers pour eux-mêmes. Alors, il faut donc, pour qu'il y ait le repentir, qu'il y ait ce regard de Dieu sur nous. Et il faut aussi qu'il y ait ma liberté. Il faut les deux. Donc vous comprenez que, à partir du péché, quand je commence à être responsable et que je prends ce péché en face, la plus grande chose que nous puissions faire, puisque notre maman, notre père, notre mère ne sont plus là en général, n'est-ce pas? Pour nous. Nous, on est des vieux, nous, nos parents et maman, ils sont à Toulouse. Alors, c'est Dieu. N'est-ce pas? C'est Dieu, mon père, mon Dieu, et Dieu existe, hein, Dieu est vrai. C'est vraiment Dieu. Dieu est plus vrai que mon père et ma mère, et beaucoup plus réel que mon père et ma mère. Et c'est lui qui est source de la réalité de mon père et de ma mère, c'est lui qui est la source de ma propre réalité. Donc, la source de la réalité, il faut qu'elle soit beaucoup plus réelle que la réalité, sinon il ne serait pas source de réalité. Bon, de toute façon, c'est un autre problème. Donc, je regarde Jésus, je regarde Dieu, il faut que Dieu soit là, il faut que Dieu voit, Dieu m'illumine sur moi, pour que je puisse voir mon péché, c'est sûr. Si Dieu ne m'illumine pas, si je ne demande pas à Dieu de me montrer ma faute, de montrer ma responsabilité, de montrer ce que je suis, de montrer qu'il est là. Et en pleine lumière, je vois cet amour. Si Dieu n'est pas là pour me regarder, si Dieu, puisque nous sommes complètement aveugles, hein, sans Dieu, et si je ne demande pas à l'Esprit Saint par l'oraison, par la parole de Dieu, par la méditation des commandements de Dieu, si je ne me nourris pas, si je ne regarde pas, ça l'examen de conscience, si je ne demande pas à l'Esprit Saint de venir dans les profondeurs, me montrer l'horreur, la profondeur, la moiteur, la réalité de ma faute, de mon péché, si ce n'est pas ça, comment pourrais-je avouer? Comment pourrais-je séparer ce que j'ai fait de ce que je suis? Parce que Dieu, il montre en même temps le péché dans sa matérialité, et du coup, il me montre l'amour. Il m'aime, moi. À ce moment-là, je peux avouer. Je peux avouer. Si on est athée, on ne peut plus avouer. C'est pourquoi l'athéisme va secréter une humanité psychotique. Une humanité enfermée dans la psychose. C'est le but de l'athéisme, c'est de faire que l'humanité soit 6, 6, 6, repliée sur elle-même. 6, 6. Je me monte, mais tout de suite pour me replier. Je monte, mais tout de suite pour me replier. C'est une humanité repliée sur elle-même, une humanité psychotique, enfermée, enfermée dans la cave du tout. C'est le but de l'athéisme, du moins c'est le but de l'Antichrist. C'est le but de ceux qui dirigent le monde dans la synarchie. C'est leur but, ils font tout pour ça. Ils savent que c'est faux, Freud, ils le savent très bien que c'est faux, Jung, ils savent très bien que c'est... Mais il faut que ce soit eux qui dominent la thérapie de l'homme. Ils savent que c'est faux, le matérialisme ésotérique. Ils le savent, mais il le faut. Parce que Dieu, c'est insupportable. Il faut supprimer la mémoire de Dieu. Il faut supprimer la mémoire du Christ. C'est-à-dire que Dieu m'aime physiquement, en moi-même, dans une onction caressante d'amour, lumineuse. Il faut que Jésus, il faut que Dieu illumine. Ça, c'est la, vous voyez, ça, c'est la petite parenthèse, application spirituelle du côté de Dieu. Mais c'est vrai que dans l'enfance, c'est la maman, c'est le père, c'est la mère. Si tu es là. Et c'est pour ça qu'il faut que demander, quand je vous avais dit, il faut faire, si on veut vraiment voir, faire une anamnèse, donc se rappeler et regarder notre faute, ben, il faut faire cette anamnèse du rosaire, je vous avais proposé. Il faut demander à Marie d'être là, notre maman. Et elle nous aime. Ce qu'on a fait, elle nous le montre dans sa lumière immaculée. Elle qui est immaculée sur une neige. Il y a une goutte de sang. Du sang sur la neige. Du sang sur la neige. Une goutte de sang. Il y a du sang sur la neige. Dès que l'immaculée est là, vous voyez votre péché. Tout de suite, il apparaît. Et d'ailleurs, il apparaît dans la beauté. C'est vrai, du sang sur la neige, c'est beau. C'est très beau. Parce que Marie nous aime, parce que Marie, c'est notre mère. Et elle nous fait sentir que Dieu, c'est notre Père. Et dans la chair du Messie, qu'il a pris de sa mère, il nous aime d'une manière sensible. Alors notre péché devient beau. Du moins, nous le voyons dans la beauté. Et notre péché n'est pas beau, parce que le sang sur la neige, c'est terrible. L'innocence, c'est la neige. L'innocence immaculée de la Vierge. L'océan d'innocence de Marie. L'océan d'innocence de blancheur, de splendeur, de médiatrice. De la médiatrice. Sacerdoce royal, c'est la médiatrice. Et là, c'est la neige. Et il y a le sang sur la neige. C'est Simone Veil hein, qui disait ça, vous vous rappelez. Le sang sur la neige. C'est beau, ça. Il n'y avait qu'une juive qui pouvait dire ça. Le sang sur la neige. La sainte, hein, pas l'avorteuse, oui. Remarquez, elles auraient le même âge, hein. À peu près. Simone Veil, elle était adolescente pendant la guerre, l'actuelle. Et l'autre, elle avait quoi, 10 ans de plus? À peu près. Elle devait avoir 17-18 ans, Simone Veil.
Elle avait 67-68 ans, Simone
Veil, l'actuelle. Oui, ben, l'autre avait peut-être 28-30 ans. Elle avait professé quelques années comme professeur de philosophie seulement, voyez. Le sang sur la neige. Elle avait été en Espagne. Elle avait été en Espagne, elle était très engagée, Simone Veil. Elle avait été en Espagne pendant la guerre d'Espagne. Elle avait voulu combattre hein, en Espagne avec les groupes. Et puis, elle avait vu, c'était sévère la guerre d'Espagne, hein, en 1939, hein, 38-39. Et puis, dans la neige de l'Espagne, hein, le sang. Elle avait vu du sang sur la neige. Et à partir de là, elle explique des choses semblables à ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Elle comprend le sang sur la neige. Dans l'innocence, l'impureté apparaît en toute splendeur. L'impureté apparaît dans toute sa splendeur. à partir de la pureté de l'amour. La crucifixion de l'innocence, c'est splendide. Le sang sur la neige. Mais il faut l'amour, il faut cette pureté de l'amour, cette sensibilité, cette tendresse, cette océanique de l'amour, la neige. N'est-ce pas? Immaculée la mère. Il faut demander à Marie d'être là et d'aimer et qu'on soit entièrement immergé en elle, qu'on soit transformé dans cet océan immaculé d'amour maternel, vivant, sensible, éternel et divin à la fois. À ce moment-là, on voit qu'on n'est pas propre. Ceux qui ne se mettent pas à la lumière de l'amour maternel et paternel, moi, j'ai rien fait de mal, moi. Moi, je vais très bien. Toute ma vie, j'ai fait que du bien, moi, mon père. Je ne vois pas pourquoi j'irais à la confession. Je viens me confesser, mais vraiment, je ne vois pas qu'à dire. Je fais toujours tout. D'ailleurs, j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai fait le baptême, j'ai fait la communion. Alors. C'est incroyable. 80% des gens qui viennent se confesser à Pâques, c'est ça.
Dans les paroles.
Oui, alors sans parler de. Bon, alors. Bon. Mais. Vous, non, mais vous comprenez. Ah non, non, mais ça, heureusement qu'ils viennent communier. Non, et Jésus, il est pour eux.
Mais il faut qu'il y ait un problème de se confesser.
Mais bien sûr que si. Alors, ils vont se communier, ils ont besoin de Jésus pour. Si, moi, je suis content. Alors. Bon. Oui. Oui, oui, oui. Oui, moi, parce que j'y crois, Jésus, vous comprenez? Et je sais que Jésus rentre dans nos incrédulités. C'est pour ça, voyez. Donc, bien sûr que si à partir de cette communion, il rentre dans la foi, je vais dire, tu vois, c'est encore mieux si maintenant, bah, tu te confesses, c'est drôlement bien, parce que si tu te confesses, comment? Tu vas recevoir Jésus d'une autre manière, de l'intérieur, par le sang. Le sacrement du corps, c'est l'Eucharistie. Le sacrement du sang, c'est la confession. Le sang sur la neige, c'est le sang, c'est le sacrement de la lumière. Alors le sang apparaît, le sang sur la neige. C'est extraordinaire, le sacrement de la mystère de la confession. Mais je vous renvoie, ici, Charlotte a justement une série extraordinaire de cassettes sur le mystère de la confession. C'est un mystère. C'est pas la confession, je vais me confesser. C'est pas extérieur. C'est Dieu qui m'aime, qui illumine toute la terre et qui plonge, comme dit sainte Catherine de Sienne, toute la création dans le bain purificateur du sang. Et tout est purifié, toute la création. À chaque fois que je vais me confesser, tout est trempé, toute la création est trempée dans le bain de sang. Et sainte Catherine de Sienne est morte là-dessus. Vous savez comment Nietzsche est mort, en disant « Ah, ah, ah !» Et bien sainte Catherine de Sienne, elle est morte. Et les derniers mots de sainte Catherine de Sienne, vous les connaissez, j'espère. Si vous ne les connaissez pas, je vous le dis. C'est « Sang, sang, sang !» Et elle a répété ça 10-12 fois. « Sang, sang, sang !» Et à chaque fois qu'elle voyait le calice rempli de sang, c'était que du feu. Elle ne voyait que du feu. Qui enflammait tout après la consécration du précieux sang. Le sang, tout est plongé dans le sang purificateur. Tout est purifié. Parce que moi, seul, je me confesse, c'est catholique. C'est universel. C'est la résurrection qui commence. Le corps, je communie, c'est le mystère de l'incarnation. C'est là que je prends corps. Et la confession, je prends feu. Et Jésus ressuscité après l'incarnation, il me semble. Mais c'est pour ça qu'il faut se confesser avant l'incarnation. Vous avez tout compris. Bon. Donc vous comprenez, donc si Dieu n'intervient pas en moi, je ne peux pas me convertir. Je ne peux pas voir mon péché.
Je ne peux pas l'avouer.
C'est pour ça qu'il faut demander à Jésus, à Dieu de venir. Il faut demander à l'Esprit Saint, demander à Marie. Il faut faire cette anamnèse du rosaire pour que je puisse voir tous ces drames, ces trahisons, ces échecs, ces maladies, ces morts qui m'ont frappé et où j'ai participé par une réaction négative. Il faut le voir cela, le voir dans cette lumière d'amour. Si Dieu n'intervient pas, ce n'est pas possible. Donc il faut les deux, il faut la grâce et il faut ma liberté, quelque part, c'est vrai, pour que je puisse avouer, pour que je puisse passer au repentir. Il faut qu'il y ait ma liberté qui accepte de revenir et de reprendre le chemin de cette course dans la vérité, dans la lumière. Et c'est de là que viendra le repentir. Le repentir, c'est un sentiment qui n'est plus psychologique du tout. C'est un sentiment spirituel. C'est un sentiment humain, profond, qui détache l'être du mal de l'être que je suis. Donc c'est métaphysique, et donc c'est vraiment humain, c'est spirituel, c'est naturel, c'est pas surnaturel. Hein. C'est tant mieux si c'est surnaturel. Si c'est surnaturel, on appelle ça la contrition. La contrition vient de la charité surnaturelle. Le feu surnaturel qui brûle mon cœur. Mais le repentir, lui, c'est humain. Hein? Mais si ce n'est pas le Créateur, dans son amour paternel, qui vient à réanimer dans la lumière mon innocence, qui est toujours restée, mon innocence toujours au centre, cachée au centre de mon péché, à mon innocence, et... Alors, si je reviens dans mon origine, et je suis originé dans l'instant de ma conception, je vous en rappelle, je suis originé dans un amour immaculé, éternel, je suis fabriqué avec cet amour immaculé, éternel, dans l'amour de mon père et de ma mère. C'est avec ça que je suis fabriqué, cette innocence, cet amour, c'est ça. Ça reste, c'est permanent en moi. Si je m'enfonce jusque-là, alors à ce moment-là, je vois mon péché de l'intérieur, dans sa réalité. Et si Dieu, si je rejoins Dieu de par Dieu, si je puis dire, ça n'a rien à voir avec l'acteur de cinéma, et bien, à ce moment-là, oui, je peux effectivement faire cet aveu. Je peux le voir. Et du coup, je peux l'offrir, je peux le donner dans l'aveu. Et à ce moment-là, il est possible que le repentir arrive. C'est, au fond, le repentir, c'est quoi? C'est que je vois que ma faute, ma responsabilité, elle n'a pas touché moi personnellement. Je ne suis pas touché par moi. C'est Dieu qui est touché. C'est ma relation avec Dieu qui a été touchée. C'est ma manière de percevoir ma relation à Dieu qui a été touchée. J'ai donné une gifle à ma mère. Vous comprenez? Sentiment de culpabilité. Vous voyez? Donc trois niveaux. Hein? Sentiment de culpabilité, conscience de culpabilité, repentir. J'ai donné une gifle à ma mère. Papa arrive. Terreur. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah ben papa, tu sais, j'ai eu 17 sur 20 en maths. C'est vrai. On en fouille tout. Sentiment de culpabilité. Puis maman dit, tu sais, ta fille m'a giflé. Quoi? Tu as giflé ta mère? Conscience de culpabilité, oui, je ramène l'événement brut. Tu as giflé ta mère? Conscience de culpabilité apparaît, du coup, non pas la peur psychologique, qui est une des passions de l'irascible, mais donc de la psychologie, mais apparaît donc l'angoisse métaphysique. C'est ma relation avec ma mère, hein? C'est ma relation avec mon père. Là, est-ce que l'amour qui me porte est mis dans la balance, hein? C'est l'angoisse. Hein? Est-ce qu'ils vont regarder l'acte ou est-ce qu'ils vont me rejeter? Je ne serai plus leur enfant. C'est l'angoisse. Mais c'est la conscience qui va habiter, c'est humain. Attention, c'est plus psychologique. Comprenez? pouvais réagir. Comment est-ce que je pouvais réagir? Négativement, je pouvais réagir négativement. En vous jetant dans les bras de votre père. De, papa, papa, je t'en supplie. Relation fusionnelle. Ne fais rien, etc. Relation fusionnelle. Ou alors dans la fuite. Dans la fuite. Folie. Je cours, je fugue. Je vais vite voir autre chose. Je vais vite chez ma marraine. Ou je peux réagir. C'est des réactions négatives, vous comprenez? Ou alors, mais c'est pas moi. C'est moi, j'ai fait ça, mais je voulais seulement tuer le moustique qui était sur sa joue. C'est vrai, c'est ça, papa, j'en suis. Je te jure, c'est ça. Et puis, j'arrive à m'en convaincre en plus. Et je trouve un truc, toi, c'est pas possible. Il y a des gosses comme ça pour justifier, ils sont balèzes. Hein. Ça, c'est la psychose. Je m'enferme dans une autre vérité. Ou alors, je me mets à genoux, je demande pardon. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça, il faut que ça, faut que, voilà. Donc, vous demandez pardon, vous mettez à genoux. Vous voyez, ça, c'est trois types de réactions. Une réaction animale, une réaction humaine, mais négative, une réaction humaine positive, que je me mets à genoux, je demande pardon. C'est sûr. Mais quelque part, quand je me mets pardon, quand je demande pardon, que je me mets à genoux, pardon, devant mon père, je crois que c'est... Je comprends aussitôt, quelque part, très profondément, que c'est pas suffisant, que ça, c'est très insuffisant. Vous le sentez, d'ailleurs. Hein? J'ai dit, ma mère, papa arrive, je me mets à genoux, je sentais que c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Vous le sentez? Est-ce que vous sentez ça, que c'est pas suffisant? Le père et la mère le sentent aussi. Hein? Sauf s'ils sont chrétiens. S'ils sont chrétiens, ça suffit. Pourquoi? Si c'est quelqu'un qui est athée, ça ne suffit pas. Et l'enfant qui est dans une famille athée, il sait que ça ne suffit pas. Il le sent que ça ne suffit pas. Et il sait très bien, il voit de manière très lumineuse que ça ne suffit pas. C'est irréparable. C'est pas parce qu'il se met à genoux. C'est irréparable. Donc j'espère que là, vous le sentez. Hein. Il faut le sentir, ça. Hein. Vous ne le sentez pas, c'est très grave. Pourquoi? Parce que quand vous mettez. C'est pour ça que spontanément, tu te mets à genoux, tu ne m'entends pas. Pourquoi? Parce que tu comprends. Que ça ne se limite pas à la matérialité de ta faute, ça ne se limite pas à la gifle, à ta mère. C'est pas la relation avec toi-même, avec la source, ta mère, de toi. C'est pas ça qui a été perturbé par ton acte. C'est ta relation à Dieu qui a été perturbée par ton acte. C'est Dieu que tu as voulu atteindre inconsciemment. Et c'est Dieu, l'amour de Dieu, l'amour éternel de Dieu. Quand tu fais du mal à ton prochain, c'est Dieu que tu gifles. C'est lui, parce que tu lui en veux. Tu lui en veux à Dieu. Tu lui en veux. Il a permis, quand tu étais innocent et désarmé. Il a permis que tu aies reçu des blessures de la part de ceux qui, sous le visage duquel Dieu se cachait. Dieu s'est caché toujours sous le visage de mon père et de ma mère. Et mon père et ma mère, ils ont voulu me tuer. C'est vrai. La moitié, on considère, la moitié des enfants qui sont conçus sont avortés. Et sur les survivants, la deuxième moitié, il y a la moitié de ceux qui vont naître qui vont vivre toute la grossesse dans leur sein de leur mère avec un père et une mère qui désireraient qu'il n'existe pas, mais il vivra quand même. Et sur les 25% restants, il y en a encore la moitié qui, quand la mère se rend compte qu'elle est enceinte, elle réagit négativement. Vous savez bien qu'au deuxième mois, la réaction est tout est psychologiquement et instinctivement, pas instinctivement, mais psychologiquement négative. Donc c'est presque 90% des enfants qui vont recevoir cette volonté de mort de leur mère. Et l'enfant en veut à Dieu, parce que l'amour, il a voulu que son amour passe par la mère. Et l'amour de Dieu est venu sur nous sous cette volonté qu'on n'existe plus, qu'on ne vive plus. Et on en veut à Dieu, c'est à Dieu qu'on en veut. Il a permis ça, il a voulu ça. Et donc à chaque fois qu'on gifle sa mère, c'est Dieu qui est visé. C'est quand on se retrouve dans un événement analogique, je viens de gifler ma mère, mon père arrive. Je me mets à genoux et je sens que ça ne s'arrête pas, la relation avec mon père et ma mère. L'acte est largement insuffisant. C'est pour ça qu'il faut le repentir. Et le repentir, c'est de voir que mon péché ne se limite pas à la matérialité de l'acte, mais que c'est Dieu lui-même, ma relation à Dieu, qui est visée. C'est pour ça que si c'est des parents chrétiens, si le gosse dit pardon, eux, ils savent que quand un gosse dit pardon, c'est Dieu. C'est à Dieu qui demande pardon. Donc, eux, ils n'ont plus à sévir. Parce que quelqu'un qui a été, c'est eux qui reçoivent le geste, et du coup, ils réagissent par la justice. Et quand c'est des chrétiens, ils réagissent par le pardon, la miséricorde. C'est normal, spontanément, c'est spontanément ça. Vous voyez que le repentir, c'est lié à la présence du Créateur. Le Créateur, mon Père, le Père de ma vie, de mon innocence, de ma soif immaculée d'amour. Mais pourquoi, entre parenthèses, Dieu a-t-il permis ça? Pourquoi a-t-il permis que je ne pouvais rien faire? J'étais une soif d'amour immaculée, une attente totale, une adhésion absolue à ma mère dans une soif d'amour d'infiniment Père et Dieu. Tout ça, je suis fabriqué avec ça, puis paf, le péché originel, péché symbiotique, péché communionnel, qui m'arrive au visage, l'innocence. Je suis tout de suite ensanglanté, immaculé dans mon innocence, mais ensanglanté. C'est vrai, pendant 9 mois, je suis comme ça. J'ai commencé comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? C'est ce que disait Père Finet. Père Finet disait, c'est pour ça que la femme a ses règles. Parce que le sang jaillit toujours de la matrice, de la vie. Gratuitement. C'est pour ça que c'est du sang. Gratuitement. Périodiquement. Le sang sur la neige. C'est gratuit. Pourquoi est-ce que gratuitement, la sagesse de Dieu veut ça? C'est là que ma responsabilité se trouve d'enfant. Dieu n'est pas responsable, il n'est pas né. Ah, pardon. Pardon. Ça n'est pas vrai. On est parfaitement responsable. Pourquoi? Il n'est pas responsable, il a 1 an. Il n'est pas responsable, il n'a que 6 ans. Je suis parfaitement responsable. Il n'est pas responsable, il est dans la sublimation. Il n'est pas responsable, il est psychotique. Donc, Céline, il n'a plus égorgé le violet, là, tu vas faire un sacrifice rituel. Acquitté. Acquitté. Hein, on a vu ça. Procès de Grenoble. Acquitté. Incroyable. Il l'a avoué pourtant. Moi je connais le gendarme devant qui il a avoué. Il a déposé, il s'est dit, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Il est acquitté. Hein? Faut le faire. Là, un fameux indien, c'est avec la petite Céline de la mode du Caire. Acquitté. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est la miséricorde, ça? C'est même pas de la justice qui montre que tous ces jurés, aucun d'entre eux n'était arrivé au deuxième stade de la conscience de culpabilité. Tous enfermés dans le sentiment de culpabilité. Ça, je vous assure, c'est des phénomènes de société qui sont parlants, ça. Hein. Parlants, ça prouve que, vous voyez, c'est, Satan est vainqueur. Hein. Tous les hommes, collectivement, enfermés et individuellement en même temps, hein, dans le sentiment de culpabilité. On est dans le 666 à fond. En France, c'est fait. En France, c'est fait. Je pourrais vous donner plusieurs exemples. C'est ça le philosophe, hein, il essaie de comprendre, à travers les phénomènes de société, l'état de ses frères, l'état de sa famille, de sa patrie, de ses frères et sœurs, de cette communauté humaine. On y est. Le pape l'a dit. C'est pour ça que le pape peut le dire. On y est. Le pape y est. On est au chapitre 13. On est dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. On y est. C'est nous. C'est la fin. Tant mieux. Parce que quand Jésus est dans le tombeau, c'est la fin aussi. Et c'est donc, on peut commencer à se relever. Parce que Jésus, lui, se relève d'entre les morts par la résurrection quand on est à la fin. Et l'amour va être victorieux de tout. Jésus va nous prendre là. Pour tout. Ressusciter dans la splendeur. C'est le retour du Christ. C'est le retour du Christ. Tout ça, c'est des petits signes qu'on est dans le retour du Christ. C'est incessant. Alors. Et on peut pas ne pas le désirer. Ah, si on est dans le sentiment de culpabilité, le retour du Christ, non, c'est pas prêt. Hein. C'est pas le moment. Après, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que Jésus revienne maintenant pour jugement des vivants et des morts. Il ne faudrait pas que papa revienne à la maison. Mais non, que Jésus revienne maintenant, ce serait super. C'est le moment, je veux dire, c'est l'heure, mais bien vite. Perçoit à partir de ce péché qu'il y a l'amour de Dieu qui m'illumine de l'intérieur, qui montre qu'il m'aime, à ce moment-là, la miséricorde apparaît. Vous comprenez bien que l'aveu, s'il est vécu en Dieu, dans cet amour infini de Dieu, s'il revient à mon innocence originelle, cette soif d'amour dans laquelle Dieu me nourrit encore, cette soif infinie d'amour en moi, je vois en effet qu'à ce moment-là, je reviens à ma relation à Dieu, et à ce moment-là, je vis de la miséricorde, cette miséricorde qui fait que si mon péché était comme l'écarlate, comme le sang sur la neige, rouge comme l'écarlate, il deviendra blanc comme la neige, Isaïe. Car je suis ton Dieu. Prophète Isaïe, fameux. Si ton cœur te condamne, aveu, Dieu est plus grand que ton cœur, première épître de Saint Jean. Extraordinaire cette parole de Saint Jean, Nouvelle Isaïe. Si ton cœur te condamne, aveu, Dieu est plus grand que ton cœur. Si on revient à Dieu, à ce moment-là, il repentir. Et le sang est lavé. Pourquoi donc, disais-je, Dieu permet-il cela? Que pendant 9 mois, nous vivons ça. Cette soif d'amour blessée à mort. Par ceux qui nous aiment le plus, mon père et ma mère. Pourquoi? Eh bien, il faut le dire, c'est heureusement que c'est comme ça. Parce que si ce n'était pas comme ça, si c'était Marie, reine immaculée de l'univers, qui était ma maman, et donc il n'y aurait pas cette blessure, maman et papa ne sont pas des saints. Si c'était ma reine, il n'y aurait aucune blessure. Donc cette soif d'amour dans laquelle je suis créé, je suis fabriqué, de l'amour éternel et en même temps avec un amour humain complètement réussi, ouvert à l'infini, Marie et Joseph, n'est-ce pas, fabriqué avec ça, et mon père et ma mère aussi, c'est vrai, au niveau biologique, c'est parfaitement réussi. Parce que du côté de la matière et du côté de la gesticulation, Les gènes, on l'avait vu, comment ça marchait. Ça reste parfait. Le PC ne touche pas la matière. Le PC ne touche pas l'être. Le PC touche tout ce qui est intermédiaire. Donc l'amour entre mon père et ma mère reste absolument parfait du côté de la matière. Du côté de la constitution du génome, la mémoire génétique. Absolument parfait. Donc je suis fabriqué avec un amour humain absolument parfait. Et avec l'amour divin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit me fabriquent une âme à partir de leur amour. Donc c'est un amour infini, innocence infinie. C'est très fort, ça, on est fabriqué avec de l'amour parfait, sur le plan matériel, et sur le plan physique, et sur le plan spirituel. On est fabriqué. Et donc cette soif d'amour est étonnante. C'est une soif, une capacité infinie d'amour. On est capable de recevoir un amour infini, éternel, actuel, continuel. Continuellement ne cessera de s'intensifier. Voilà comment on était fabriqué au départ. Mais l'amour, c'est réciproque. Si je reçois, si c'était Marie, Marie-Reine, qui était ma maman, à ce premier instant, cet amour infini me comblerait tout le temps, 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 tout le temps. Et il n'y aurait que du don, que du don, que du don, que du don, que du don. Jamais de pardon, jamais d'accueil, jamais de réponse. Jamais de réponse au don. Et donc, il n'y aurait pas d'amitié entre Dieu et moi. Parce que l'amitié, c'est la réciprocité dans le don.
Mais Marie a donné l'homme profond. Elle est toute don, malgré qu'elle...
Non, je ne parle pas de Marie, je parle de vous dans le sein de votre mère. Je parle de vous. Je parle de moi, si vous préférez pas vous, parce que vous, vous n'avez pas de problème. Mais moi, ouais, je parle de moi, dans le sein de ma mère, premier instant, pendant ces 9 mois. Je parle de moi. Je ne suis pas né dans les entrailles physiques de la Vierge Marie, je suis désolé. Non ! Ma maman s'appelle Monique, elle n'est pas née non plus dans le sein de Marie-Reine, elle est née dans le sein de sa mère Anne. Je suis désolé, elle est née dans le sein de sa mère Anne. Et la Sainte Samérane était frappée par le péché originel. Donc, c'était une passoire où il passait pas mal de choses de l'amour de Dieu, mais il y avait encore des obstacles. C'était pas tout. Il y avait pas mal de. C'était une passoire un peu, encore bouchée. Il y avait pas mal de trucs du péché originel, du péché symbiotique, du péché communionnel. Oups, tout passait pas. Et donc, le manque à être comblé, c'est ça, la blessure. Le manque à être comblé, c'est ça, la crucifixion de l'innocence. Le manque à être comblé de cet amour infini, c'est ça. Notre soif infinie d'amour n'est pas comblée, justement dans cet amour intense et infini, immédiatement. Et c'est comme si je vis de cette soif infinie, je ne le reçois pas immédiatement, eh bien j'en suis blessé. C'est ce qui me permet d'avoir soif d'aller vers l'amour, de l'appeler, de le désirer, de tout faire pour aller à sa conquête. Et voici comment, là, Dieu, au lieu que je sois un esclave de l'amour, dès le départ, comme c'est le cas au premier instant, je deviens un ami. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Voilà ce que dit Jésus lorsqu'il lave les pieds de ses disciples. C'est pour nous faire comprendre ça. C'est que le mystère de la croix est nécessaire. Et s'il n'y avait pas cette blessure de l'innocence, on ne pourrait pas être libre et se lever pour dire « Je choisis librement l'amour. » Et c'est là ma responsabilité. Et elle commence déjà 9 mois avant ma naissance. Et j'en suis responsable. C'est un choix responsable. Dis-moi, mais tout ça, c'est ce qui m'arrive. C'est, au fond, je découvre par la psychanalyse que c'est quelque chose qui s'est passé 6 mois avant ma naissance. Donc, je n'étais pas responsable. Pardon! Vous êtes responsable parce que vous êtes fabriqué de l'amour et cet amour vous donne une puissance spirituelle de liberté grâce à cette insuffisance à être aimé. Vous n'êtes pas coupable, d'accord, mais vous êtes responsable. Et on sait très bien, c'est pas pareil être responsable. Vous savez, depuis Georgina Dufoy, on sait qu'il y a une différence. Curieux, à l'occasion de la transfusion du sang. Curieux. Un sang crucifié, hein? Un sang sidaïsé, ça, extraordinaire. Il n'y a rien par hasard, hein? C'est vrai. Parce que Dieu fait tout avec nombre, poids et mesure. Mais dans la liberté, en plus, c'est ça qui est extraordinaire. Il veut que la liberté jaillisse. C'est ça. Comme, alors, voyez bien. Alors, je suis parti avec Georgina du foie, il faut vite revenir. Bon, je veux dire, la liberté. Pourquoi responsable? Responsable, les psychologues savent très bien que dans le sein de sa mère, on fait des choix responsables. Face à deux jumeaux, pouf, on a la même réceptivité, la même origine, les mêmes réactions symbiotiques, communionnelles et négatives, et il y a un qui va choisir la mort, et l'autre qui va choisir la vie. Il y en a un qui va mourir à l'âge de un an et demi. Il est déjà à la naissance, et l'autre qui choisit la vie. C'est pas parce que celui qui a choisi la vie, elle fout des coups de pétard et tatane de l'autre. Hein. Parce qu'il y a des choix. Tout le monde sait qu'on fait des choix personnels de vie ou de mort avant la naissance. De manière responsable. Pas coupable, c'est vrai, pas coupable. Alors, on n'est pas coupable, ça d'accord. Mais responsable, oui. Alors vous comprenez que si, devant cet aveu, revenons l'aveu, les trois premiers aspects positifs, on reprendra la suite. C'est dommage, j'aurais voulu finir aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on n'aura finalement pas fait cette année à mémoire du tout. Ça fait rien. Mais c'était... Si je reviens donc à l'aveu, s'il est vécu dans cet amour innocent, infini de Dieu qui ne m'a jamais quitté, à ce moment-là, je vois que je refais un acte de responsabilité humaine, je rechoisis l'amour dans cette soif infinie, je me relève pour aimer jusqu'à l'infini, et donc je comprends que Dieu me pardonne, miséricorde, je fais l'expérience de la miséricorde, et je reçois ce pardon, n'est-ce pas? Je reçois ce pardon, et recevant un don plus grand encore, qui est celui de la liberté qui me permet de recevoir le don, parce que c'est moi qui le choisis, à travers le péché pardonné. Et à travers le péché pardonné, c'est ma liberté. Grâce au péché, je peux rendre la réciproque dans l'amour infini de Dieu. Parce que ce pardon, entre parenthèses, soit-il donné, ce pardon m'est donné jusqu'à la substance et à l'infini par Jésus ressuscité. Mais ça, c'est les chrétiens qui peuvent le dire. Et on verra donc la prochaine fois comment, à partir de cette expérience, donc du pardon reçu, je vais pouvoir retrouver ma véritable identité originelle et en même temps mon identité finale. Mon alpha, mon oméga. Je vais pouvoir retrouver mon lien avec mon vrai père, ma vraie mère, qui sont mon père et ma mère dans la chair. La véritable origine paternelle et maternelle de mon père et ma mère. Je ne vais pas dire, ouais, ma mère dégueulasse, mon père dégueulasse, mais le, ah oui, mon père. Je vais pouvoir retrouver, et Dieu pareil. Je vais, toute relation avec Dieu sera totalement extraordinaire dans une relation d'amour, de piété, don de piété. Et je vais pouvoir, du coup, regarder les autres tels qu'ils sont et avoir le sens de l'autre. L'altérité. Et à ce moment-là, je peux être un homme. Je suis responsable, je suis libre, je suis digne, je suis humain. Et c'est ça la maturité. Quelqu'un qui est adulte. Maturité. Alors, si je suis mûr, si je suis libre, si j'ai le sens de l'autre, je peux offrir tout ce que je suis. Je peux me donner. Tant que j'en suis pas arrivé là, il est évidemment impossible de me marier. Hein. Quelqu'un qui vient chez moi, puis qui n'a pas ça au moins de manière habituelle, je dis, je ne vous marie pas. Je ne vous marie pas. C'est pas possible. On ne peut pas marier des psychotiques. S'enfermer tous les deux dans leur bulle. N'est-ce pas? Le mariage, c'est des gens qui sont athées, pratiquement, concrètement, explicitement et implicitement. L'amitié est impossible. Impossible. Donc l'athéisme tue la famille. Tue la famille naturelle. Alors retrouvons Dieu pour retrouver notre identité, pour respirer en nous-mêmes tels que nous sommes, et pour aller dire cet amour infini que Jésus nous donne dans la résurrection. Et pour ça, l'Immaculée Marie, la Reine, est invitée, et continuons comme ça jusqu'au mois de juin.